Amen. Merci à la louange pour ce temps précieux qu'on a pu vivre. Et maintenant, j'accueille David Guya qui va venir nous partager ce qui brûle sur son cœur. On se réjouit de l'entendre et de recevoir ce que tu nous dis.
Génial. C'est toujours vraiment un privilège de pouvoir se réunir ensemble pour élever le nom du Seigneur, pouvoir louer le Seigneur, pouvoir le vivre. C'est génial quand on le vit chez soi, soi-même, dans notre chambre, quand on se promène dans la voiture. Mais il y a quelque chose quand on loue le Seigneur ensemble pour élever son nom. Et il est digne. Il est digne de ça. Vous voyez ce que c'est ? C'est un réveil. Je suis certain que ce n'est pas forcément votre objet préféré. Si, alors que vous m'aviez peut-être invité chez vous pour un bon petit repas, je vous demandais quel est l'objet que vous préférez chez vous. Montre-moi ce que tu préfères dans ton appartement, dans ta maison. Je ne pense pas que tu irais chercher ton réveil matin. Tu montrerais, je ne sais pas, soit peut-être ta machine à café ou ton canapé avec le dossier inclinable automatiquement ou bien un autre bibelot souvenir sympa, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que tu irais chercher ton réveil sur ta table de nuit. Pourtant, dans le monde chrétien, c'est quand même un mot à la mode, le réveil. Il suffit un peu de mettre le mot réveil sur le titre d'un séminaire pour faire un peu le buzz. Pourtant, quand le réveil sonne le matin, on aimerait des fois bien rester encore un petit peu au chaud. Surtout quand il fait froid ces temps. Il fait environ, je ne sais pas, peut-être moins 5. Dehors, on a envie de rester sous son duvet. Et je traduis pour ceux du haut, moins 12. Voilà, comme ça on est tous ensemble. Non ? Le réveil, même s'il est utile pour ce qu'on a à faire dans la journée, ce n'est pas forcément le son le plus agréable au monde, parce que ça nous sort en fait de notre cocon. Et parfois, un réveil, c'est peut-être des fois plutôt comme ça. Ça sonne, mais on peut rester au lit jusqu'à la suivante. Et spirituellement, parfois, c'est peut-être un peu pareil. À chaque fois, c'est un peu une mélodie sympa qui vient, on attend le réveil, on reste dans notre cocon. Je rigole, je taquine, mais quelle nouvelle sonnerie, quel nouveau message qui va me booster est-ce que je vais entendre ? Et puis, on peut passer d'une sonnerie spirituelle à une autre. Et il y en a toujours un peu une autre. Et pourtant, le but du réveil, c'est de quitter son lit. C'est d'abandonner son confort, c'est de se lever, et puis c'est de vivre ce qu'on est appelé à vivre pendant la journée. Et ce matin, j'ai envie qu'on puisse prier pour que ce message de réveil, cette sonnerie, que ça soit un peu comme une sonnerie ce matin, ça soit le début d'un véritable réveil chez beaucoup d'entre nous. Et pas juste une sonnerie de plus, comme vous avez vu avant, une de plus, mais que ça soit vraiment le début d'un réveil, pas dans le sens juste d'un réveil, mais dans le sens de se lever, et puis d'entrer dans ce que Dieu a prévu pour nous. Et que ça soit l'impulsion qui te fait te lever, qui te met debout, qui te fait sortir du cocon, et d'entrer vraiment dans ce que Dieu désire que tu vives, déjà peut-être pour 2026, mais de ta vie, en fait. Et je vais prier pour ça avant d'aller plus loin. Esprit de vie, je te prie de venir ce matin. Merci pour ta présence pendant la louange, cette profondeur, cette douceur. Et je te prie maintenant, Saint-Esprit, de venir toucher nos cœurs. Au-delà des mots, au-delà de ce message qui a été préparé, je te prie de venir toucher nos cœurs par ta présence. Viens, Seigneur, qu'on puisse être touché pour qu'on sorte, qu'on puisse se lever de ce cocon, qu'on puisse sortir, Seigneur, peut-être de là où on est, se mettre en mouvement. Et j'aimerais vraiment prendre maintenant autorité au nom de Jésus contre tout esprit de lassitude, de fatigue spirituelle, pour se rendormir encore et encore, et que ça soit spirituel ou physique, au nom de Jésus. Toute flemmardise spirituelle, je la dénonce au nom de Jésus. J'ordonne à tout esprit religieux, tout esprit antichrist qui amène l'abattement, la lassitude, le découragement, la dépression de s'en aller de cette pièce, au nom de Jésus. Et Seigneur, je veux libérer une faim et une soif de qui tu es, une faim et une soif de ta présence, une faim et une soif de ta parole, une faim et une soif de rentrer dans ce que tu désires pour l'Église, dans ce que tu désires pour chacun d'entre nous. Amen. Vous savez, le réveil, en général, enfin le matin chez soi, il est surtout pénible quand ce qui va se passer pendant la journée n'est pas très passionnant ou ne motive pas. Par contre, si c'est une journée où il y a un événement qui te plaît, qui te motive, qui t'enthousiaste, bah, souvent tu vas te réveiller rapidement, et puis des fois même avant le réveil. Par exemple, si c'est un jour de vacances, ou bien si tu as prévu une super excursion, ou bien c'est le jour de retrouvailles avec quelqu'un que tu as envie de revoir, ben, soit tu te réveilles avant la sonnerie, ou quand ça sonne, c'est assez vite éteint, et tu seras assez vite debout. Et moi, c'est ma prière, c'est que Dieu place dans nos vies une telle faim et une soif, une faim et une soif de vivre ce qu'il a prévu dans nos vies, que lorsqu'on entend un signal, un son, un réveil, un message qui nous fait nous lever, on ne starte pas à se lever. Qu'on ne reparte pas tout simplement pour un tour dans la couette spirituelle. Et même que la faim et la soif nous fassent nous lever, j'allais dire, au milieu de la nuit, au milieu des ténèbres. Alors c'est une image, je ne parle pas de l'appel du frigo au milieu de la nuit, mais de l'appel du Seigneur à se mettre en marche. Que ce soit pour notre vie de tous les jours, notre quotidien, vraiment de se lever pour lui. Et pas qu'on presse cette touche snooze ou la touche répétition du réveil et c'est reparti encore pour un tour. Et ça ressonne, il y a de nouveau une impulsion et c'est reparti, on represse et c'est reparti. Et là, on va s'approcher du thème de mon message parce que ça me fait penser à qui, un peu ce principe. Qui, à la place de se lever et d'entrer dans son appel, dans ses promesses, a pressé encore et encore sur la touche de répétition ? Il est resté un peu dans ce cycle. Et plutôt que d'entrer dans son appel, dans son pays promis, a dormi plus de 40 ans dans le désert, alors qu'ils étaient sortis d'Égypte. Cette sortie d'Égypte, c'était le signal du réveil. Mais c'est ce peuple, c'est toute l'histoire du peuple d'Israël. Et cet appel de Moïse à le suivre hors d'Égypte, c'était un mouvement de réveil incroyable, ce qui s'est passé. Monstre de délivrance, de l'esclavage, de l'oppression, libéré de tout ce qui les hantait, ce qui les oppressait. Et ils traversent la mer Rouge, l'armée égyptienne qui est derrière, elle est ensevelie derrière. Et une nouvelle page s'ouvrait pour ce réveil du peuple qui va pouvoir rentrer dans le pays de la promesse. Mais quel réveil! Et en fait, ils étaient à 10 jours du pays promis, 10-15 jours du pays promis, c'était juste là. Le réveil était venu, c'était juste une question de marcher quelques jours et ils y étaient. Mais voilà qu'ils ont pressé quelque part sur la touche à répétition, quoique libérés d'Égypte. Ils ne se sont jamais vraiment levés dans leur destinée, ils ne sont pas entrés dans leur ministère, dans leur vocation. Et après une vie de tiédeur, ils ont même fini comme ça, dans le désert. C'est fou, ils étaient à 10 jours, ils sont morts dans le désert, tièdes. Et prophétiquement, moi, je sens cet appel, comme j'ai pu le partager il y a 15 jours lors de notre dernier culte de louange, que Dieu nous appelle à quitter pleinement l'Égypte. Mais pas juste ça. Parce que pour beaucoup, on a quitté notre Égypte. On s'est tourné vers Dieu, on s'est converti depuis X années. Mais l'appel qui retentit ce matin, pour cette année 2026, enfin pour notre vie, c'est non seulement de sortir d'Égypte, mais c'est d'entrer pleinement dans le pays promis. Par Dieu, pour notre vie. Et j'entendais cette pensée de Dieu que je vous transmets. C'est un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire où la bénédiction coule naturellement. Mais un pays dont on doit s'emparer. Et pour cette année, autant je libère ma faveur et ma bénédiction en abondance, autant c'est un appel à une démarche aussi de quitter tout ce qui est encore d'Égypte en soi. C'est-à-dire un confort, une sécurité, mais dont le revers de la médaille est l'esclavage. C'est-à-dire la dépendance ou d'être pris par des choses. Et je désire pour vous une liberté nouvelle, une sortie du désert pour passer dans le pays de la bénédiction. Alléluia. Et le titre de mon message ce matin, c'est « Ne pas en rester là ». Ne pas en rester là. Ne pas juste sortir d'Égypte ou être sorti déjà d'Égypte, mais c'est de s'emparer pleinement du pays de la promesse, des promesses, de ses fruits et à en manger, à en boire l'abondance. Ces fruits surdimensionnés, ces signes de vie et pleine qu'il y a dans ce pays. Et si on parle d'Égypte, revenons d'abord tout au départ pour comprendre ce qui a amené premièrement en fait, ce peuple-là en Égypte. Et ça a commencé au tout départ lorsque Joseph a été vendu par ses frères dans Genèse 37 et il a été amené en Égypte. Mais qu'est-ce qui a amené à ça? Qu'est-ce qui a été la première porte qui a fait que tout à coup il se retrouve en Égypte pour installer finalement l'esclavage qui a fini que 400 ans plus tard. Genèse 37,3 nous dit que les frères de Joseph voient que leur père l'aime plus qu'eux tous. Alors ils commencent à le détester et ils sont même incapables de lui parler gentiment. Et ce qui a provoqué le débarras, si je puis dire, de Joseph en Égypte, c'est quelque part une jalousie à laquelle s'est ajouté le mépris lorsque Joseph avait encore raconté ses rêves qu'il avait fait, un peu de grandeur. Et là, on touche un peu le nœud du problème, la jalousie, comme on vient de le voir dans les différents groupes ressources, ça vient de l'identité, de qui je suis. L'autre qui semble mieux réussir que moi. Et ça amène une insécurité ou bien un besoin aussi de reconnaissance, que les gens y voient aussi qui je suis ou mes dons ou qui je suis. Et là, les frères, ils disent, mais notre frère est favorisé. Ils ressentent un manque d'amour du père. Et puis du coup, ils vont dégommer l'autre, ils veulent tuer ses rêves. Et ce qui est complètement fou, c'est que Joseph, en fait, il représente ses rêves. Il représente par ses rêves, en fait, c'était quoi ses rêves? C'était la promesse, c'était l'appel, c'était l'avenir préparé par Dieu. C'était ça, ses rêves du futur, une promesse, un appel. Et là, la jalousie va ouvrir la porte à l'Égypte. Et cette mentalité d'Égypte, il va tout faire pour empêcher d'abord Joseph, mais ensuite tout le peuple, d'entrer dans la promesse, d'entrer dans le pays promis et dans son appel. Et aujourd'hui, cette mentalité d'Égypte, c'est cet esprit qui se lève pour empêcher le peuple de Dieu d'entrer dans le pays promis. L'Église d'entrer dans sa destinée et toi et moi d'entrer dans notre appel. C'est ça, cette mentalité d'Égypte, qui va tout faire pour nous empêcher d'entrer dans les promesses qu'on a reçues. Et en préparant ce message, j'ai réalisé un truc un peu fou, c'est que c'était pareil pour Jésus. Il avait cet appel d'être le Messie, d'être le roi, le sauveur. Et là, Hérode, comme les frères de Joseph, par peur, par jalousie qu'en ait un autre que lui, il va tout faire, comme pour Joseph, de tuer Jésus. C'est-à-dire tuer son appel et la destinée de Jésus. Et ça va amener Jésus où? En Égypte. Alors c'est vrai que c'est Dieu par un ange qui a inspiré Joseph et Marie de s'y rendre comme protection, mais c'est quand même parce que Hérode voulait tuer dans l'œuf l'appel de Jésus, comme les frères de Joseph qui veulent tuer les rêves de leur frère Joseph, ça a amené notre Jésus, comme Joseph, en Égypte, bien loin du pays promis, au propre et au figuré, bien loin de l'accomplissement des promesses voulues par Dieu. Et c'est comme un esprit de mort spirituelle pour éteindre l'appel qui va amener tant l'un que l'autre en Égypte. Et l'esprit d'Égypte est un esprit qui vient tuer les appels, c'est un esprit qui vient endormir les vocations et c'est un esprit qui vient piétiner les destinées. Et c'est fou, c'est que dans les deux cas, Dieu va utiliser l'Égypte pour protéger Jésus de l'assassinat de tous les jeunes garçons en Judée, mais aussi dans le cas de Joseph, pour le protéger, puis tout le peuple d'Israël qui est venu avec Jacob, puis ses fils, protégés de la famine, justement, alors qu'ils sont en Égypte. Et Dieu a transformé là, dans ce cas-là, c'est juste une parenthèse que je fais, mais Dieu a transformé la menace en protection. Il est au-dessus de tout. Et il transforme ce que l'ennemi met en place pour anéantir les vies, pour museler les appels, comme une protection, comme une préparation même pour la suite. Et là, j'aimerais faire une parenthèse, parce que peut-être il y en a l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre ce matin, qui vit des circonstances particulièrement, peut-être difficiles, ou qui ne sont pas simples. Tu as l'impression que c'est dur. Et Dieu aimerait vraiment te dire que, comme pour Jésus, comme pour Joseph, qui ont vécu comme ce moment un peu d'Égypte, comme difficile, pas l'impression d'être à la bonne place, et Dieu a transformé ça en protection pour qu'ils entrent finalement plus tard dans leur destinée. Dieu est au-dessus de ce que tu vis. Et il n'a pas dit son dernier mot dans ta vie pour que tu puisses entrer dans ce que tu es appelé à vivre. Amen. Et je trouve intéressant, c'est que l'arrivée de Joseph, puis de Jacob, ses fils, au fil des années, de plus de 400 ans en Égypte, c'est devenu tout un peuple. Ce qui les a sortis, c'est Dieu qui a parlé à Moïse, que c'était le temps de quitter l'Égypte pour la terre promise. Et la même chose, Dieu va parler à Joseph, pas le même, mais le père de Jésus, de quitter l'Égypte pour retourner aussi au pays promis, si je puis dire. Et je crois qu'aujourd'hui, ce que Dieu veut dire à son Église, c'est la même chose. C'est aussi le temps de quitter l'Égypte. Certes, il y a des belles choses. Il y a une protection, il y a un confort en Égypte. Mais ce qui amène à ça, c'est un esprit qui va tout faire pour empêcher que tu sois celui ou celle que tu es appelé à être. Qui veut tuer dans l'œuf ce que Dieu a prévu pour toi. Et c'est un esprit de mort spirituelle, qui va amener la tiédeur, qui va amener la tentation pour empêcher les rêves que tu as, comme Joseph, et ton appel de se réaliser. C'est un esprit de tiédeur et de mort lente, si je puis dire. Il vient, comme on l'a vu, amener cette mentalité d'Égypte par l'insécurité d'être aimé autant que l'autre, ce qui ouvre la porte à cette Égypte en nous. Et c'est comme ça, même si nous ne sommes pas ou plus en Égypte, parce qu'on s'est converti il y a X années, mais peut-être que l'Égypte est encore en partie en nous. Et quand je dis Égypte, c'est tout ce qui nous empêche d'entrer dans nos promesses, dans notre pays promis. C'est ce qui nous rend captifs, qui nous rend esclaves. Comme le peuple, ils vivaient en Égypte, ils y mangeaient, ils y travaillaient, ils avaient un toit, mais ils ne vivaient pas dans leur appel ni dans la liberté. L'Égypte, c'est l'endroit où tu survis, alors que le pays promis, c'est là où tu accomplis ta destinée. Et même si on a quitté cette Égypte, cette mentalité d'Égypte, elle nous amène juste à survivre, à être des chrétiens qui tenons bon. Ouais, je tiens le coup, c'est pas toujours simple, mais je tiens le coup, je survis. Et comme le peuple en Égypte, on mange. Ben oui, on se nourrit spirituellement. Comme le peuple en Égypte, on travaille, c'est-à-dire qu'on sert, on est impliqué même pour le royaume de Dieu d'une façon ou d'une autre. Et comme le peuple, ils avaient un toit. Nous, on a une maison, on a une famille, on a même une église. Mais peut-être qu'on est en mode survie et pas pleinement dans notre appel. Et Dieu veut nous faire passer de la survie à la vie. Et j'aimerais qu'on mette quelques aspects concrets sur vraiment ce que c'est cette mentalité d'Égypte que l'ennemi utilise pour nous empêcher vraiment d'entrer dans ce à quoi on est appelé. Et la première, c'est le confort. À l'époque du Pharaon, l'Égypte, c'était le confort, le Nil amenait vraiment, permettait des bonnes récoltes, on mangeait régulièrement, il y avait une stabilité, une sécurité, les gens, ils avaient des belles maisons, c'était organisé, parfois même des jardins, des piscines, on prenait hyper soin de son corps, de son apparence, un peu comme maintenant, il y avait des médecins spécialisés, presque comme aujourd'hui. L'État était bien organisé, il gérait les routes, l'irrigation, les réserves, la protection. Bref, l'Égypte, ça offrait une vie bien organisée, confortable, rassurante. Et c'est ça le piège. Ce n'était pas seulement un lieu d'esclavage, c'était aussi un endroit où on pouvait s'installer. Et même avec leur travail contraignant, l'esclavage, ils étaient finalement pas si mal en Égypte, à tel point qu'ils vont finalement même regretter tout ça, alors qu'ils étaient totalement libres ensuite, quelques jours plus tard dans le désert, à 10 jours à peine du pays promis. Et quitter sa zone de confort, ce qui rassure, pour aller dans l'inconnu, pour marcher par la foi, quel défi! Et c'est là que cette mentalité d'Égypte, elle veut nous freiner. Quitter l'Égypte, c'est passer de la sécurité humaine à la dépendance de Dieu. Et Nombre 11, 4, 5 nous montre que le peuple, ils ont dit, mais on était bien en Égypte. Ils disaient, ah, si nous avions de la viande à manger, nous nous souvenons du poisson que nous mangeions en Égypte, on ne le payait même pas. Et les concombres, les pastèques, les poireaux, les oignons et l'ail. C'est là que c'est un texte biblique ce matin pour dire de manger des légumes aussi. Non. Mais non seulement dans la mentalité d'Égypte, il y a une notion de confort, mais aussi que finalement l'esclavage, il était devenu normal, en quelque sorte. À tel point qu'une fois sortis de la zone de confort, ils vont regretter tout ça. Leur corps était libre. Ils avaient fait le pas de sortir. Ils étaient sortis d'Égypte, mais leur cœur était encore captif. La mentalité d'Égypte était encore là dans leur cœur. Le bon côté de l'Égypte, il va normaliser la captivité. Entre guillemets, le plaisir qu'ils pouvaient avoir surpasse le fait de l'oppression puis de l'esclavage qu'ils vivaient. Et c'est tellement parlant. Il y a aujourd'hui tellement de bonnes choses, a priori, qui donnent du plaisir, mais qui rendent captives spirituellement. Et la mentalité d'Égypte, c'est quand le plaisir fait passer l'esclavage pour finalement ne pas être si grave que ça. Elle rend acceptable le compromis, même avec des choses qu'on sait que Dieu n'aime pas. Et ça ne devient plus tellement un problème pour nous, finalement. On minimise. Finalement, ce n'est pas si grave. Pourquoi est-ce que, je ne sais pas, je prends 2-3 exemples comme ça, il y en aurait plein. Pourquoi dans mes finances, ma déclaration d'impôt, je pourrais faire comme si je gagnerais, c'est pas un souci, personne ne verra. Et finalement, je commence à avoir des liens de cupidité, de radinerie liés par maman. Ou pourquoi se priver de coucher en dehors de l'alliance voulue par Dieu dans le mariage? Le plaisir l'emporte sur les liens d'âme, sur les liens d'impureté, et j'en passe. Pourquoi pas profiter de ceci ou de cela comme dans le monde? Finalement, le péché, c'est pas si grave. Finalement, l'esclavage, la dépendance, elle devient normale. Et on s'y fait. La mentalité d'Égypte, elle anesthésie la conscience à petit feu et tisse fil après fil un piège qui rend esclave. la mentalité d'Égypte, je le redis, elle anesthésie la conscience à petit feu et tisse fil après fil un piège qui rend esclave. Et l'Égypte, ça ne tient pas forcément par des chaînes visibles, mais par des habitudes intérieures. Tu peux sortir d'Égypte physiquement, mais porter encore l'Égypte en toi, spirituellement. Et quand on lit le récit de Joseph en Égypte, qui a été tenté par la femme de Potiphar, elle a tout fait pour le séduire. Lui, il a tenu bon, mais il a payé très cher, ça. Accusé à tort, finalement, d'abus sexuels, alors que c'était lui qui avait tenu bon. Et on peut dire que l'Égypte, ce n'est pas seulement un lieu d'esclavage, de contrainte, mais c'est aussi, à un moment donné, dans cette mentalité, un lieu de séduction, avec ce qu'on vient de voir avant. La mentalité d'Égypte, ce n'est pas forcément un appel frontal au péché, mais c'est l'appel au compromis confortable. L'Égypte propose aussi toujours une réussite sans sainteté, une réussite sans fidélité, sans consécration, sans dépendance à Dieu. Et pourtant, Joseph, à ce moment-là, c'est un prisonnier. Il est au service de Potiphar. Et là, il aurait eu la possibilité d'être promu, d'être dans les petits papiers de madame, et même dans son lit, en fait. Mais tout le bon côté, finalement, plutôt que d'être un prisonnier, c'est quand même assez sympa d'être un peu privilégié comme ça. Il aurait pu penser que c'était déjà une promotion, plutôt que d'être dans son cachot, ou d'être juste prisonnier qui doit un peu aider, servir dans la maison. C'était déjà une promotion. L'esprit d'Égypte ne cherche pas toujours à te faire tomber, mais à t'installer avant l'heure. Et quand on voit que l'appel de Joseph, c'est finalement, il va être le premier ministre, une des personnes les plus importantes de l'Égypte. Et l'Égypte, à l'époque, c'était une puissance mondiale. Et là, il aurait juste été un peu mieux qu'un prisonnier, mais des fois, cette promotion-là aurait pu être tentante. Et l'esprit d'Égypte essaye de nous installer dans quelque chose de mieux pour nous empêcher d'entrer vraiment dans l'appel qu'il y a derrière. Et celui de Joseph était fabuleux. La mentalité d'Égypte, c'est aussi une mentalité du souvenir et de la nostalgie. On retient que le bon côté des choses passées. Gentiment, cette mentalité peut nous enfermer dans le regret. Et c'est sournois, parce que ça nous empêche d'avancer dans le nouveau, ou de bien vivre le présent, ou même d'envisager le futur. C'était tellement bien ce qu'on vivait à l'époque. Le peuple, c'est comme s'il ne se souvenait même plus que l'esclavage, c'était dur. Il gardait comme une mémoire sélective de tout le bon côté. La nourriture, le poisson, les poros, voilà, c'est ça qu'il aimait de l'Égypte. Alors qu'ils étaient oppressés, c'est comme si tac, ils voyaient que le bon côté. On peut nous dire, quand j'habitais là, quand mes enfants étaient petits, comme c'était beau, c'est les meilleures années de ma vie. Puis on oublie qu'on a dû se lever 8 fois par nuit, puis les tonnes de linge, puis tout ça, la crise dans le magasin. Ou bien on peut passer de ça, peut-être, je sais pas, d'une vie d'église à un moment donné dans notre passé, puis on retient que les bons côtés, les amis, les bons moments. Puis on oublie peut-être certains aspects douloureux ou enfermants. On peut être pris de nostalgie. C'est cet esprit d'Égypte qui touche comme notre mémoire sélective. Ça peut être dans d'autres domaines. Les premières années de mariage. Quand j'étais ma vie d'étudiant. Puis on oublie, on voit que le bon côté, puis on oublie qu'on était fauché tout le long, je ne sais pas. Mais globalement, c'est normal. C'est génial de garder les bons souvenirs, heureusement. Mais là où c'est un problème, c'est quand ça t'empêche de vivre l'instant présent et d'entrer dans ce que Dieu a pour toi aujourd'hui et demain. Et même si Dieu était, est et sera éternellement, son nom, c'est « Je suis ». Ce n'est pas « J'étais ». C'est « Je suis », c'est « Maintenant ». C'est le Dieu du présent qui t'amène dans le futur. Et il aimerait que tu vives à fond ce qu'il a prévu pour toi aujourd'hui, libre de la nostalgie du passé, et que tu entres pleinement dans ton appel, dans ton pays promis. Entrer dans son pays promis, c'est entrer dans les promesses que Dieu nous a données. Ce n'est pas le paradis sur terre, mais c'est l'endroit spirituel, c'est la posture, la position dans laquelle Dieu désire que nous soyons. Ce n'est pas non plus un dessert qui est présenté sur un plateau, mais c'est un pays dont il faut s'emparer. Le pays promis, il était rempli de villes fortifiées et de géants, mais ça ne voulait quand même pas dire que ce n'était pas le pays promis, malgré ça. Et parfois, on pense que ce n'est pas forcément pour nous, parce que tiens, c'est un peu plus dur que prévu. C'était le cas de ces 10 espions sur 12 qui ont abandonné et qui sont restés avec cette mentalité d'Égypte. Plutôt rester un chrétien tranquille que de payer le prix. Mais ils n'ont jamais vu le pays, ces 10. Seuls Josué et Caleb y ont cru. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont cru que comme un chef cuisinier a amené un plateau, puis a soulevé le beau couvercle, puis ils ont reçu le pays promis. Ils ont cru, mais ils ont dû s'emparer de ce pays quand même. Ils ont dû batailler. Et parfois, il y a du combat. C'est justement parce que derrière, il y a la promesse. Derrière, il y a le pays promis. Et entrer dans son pays promis, c'est quitter la mentalité d'Égypte. C'est traverser ce Jourdain qui nous démarque du désert. Traverser ce Jourdain. Alors, c'est quoi ce Jourdain ? Alors, moi, je me suis dit, ah tiens, c'est peut-être le baptême, en réfléchissant juste comme ça, spontanément. Puis je me suis dit, non, je pense que c'est plutôt la mer Rouge, le baptême. On quitte le monde, on quitte l'Égypte, on se convertit, on se tourne vers le Seigneur, on passe comme par les eaux du baptême, on passe la mer Rouge, et voilà, on rentre dans ce que Dieu a prévu pour nous. Étape magnifique, mais on peut rester bloqué dans le désert. Passer le Jourdain, moi je pense que c'est plutôt quitter pleinement cette mentalité d'Égypte et entrer dans le pays promis, entrer dans son appel. Et là, ça a été comme une révélation pour moi, vraiment. Parce que lorsque le peuple il quitte l'Égypte avec Moïse, il était oppressé, même pris au piège, mais c'est au moment, et c'est Dieu qui lui a dit de faire comme ça, c'est au moment où Moïse lève son bâton et élève sa main, que la mer s'ouvre toute seule. Et le peuple, il n'a qu'à marcher dans la mer qui est ouverte. Tout a été fait par Dieu. C'est la grâce. Il n'y a qu'à marcher. Il a tout fait. C'est comme quand on se convertit, ou même l'image du baptême. On passe à travers l'eau, on reçoit cette vie nouvelle. C'est gratos. C'est la grâce, c'est la souveraineté de Dieu. Dieu a tout fait. C'est après cela que le peuple vit le désert, vit la tentation et cette mentalité d'Égypte qui lui colle encore à la peau, ou plutôt dans le cœur. Mais ce qui va permettre au peuple de quitter ce désert et cette mentalité d'Égypte qu'on vient de voir, c'est de passer le Jourdain. Et contrairement à la mer Rouge, ce n'est pas Dieu qui a ouvert le Jourdain tout seul. Dieu dit à Josué dans Josué 3, 13, « Dès que les pieds des sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel reposeront dans l'eau, les eaux du Jourdain s'arrêteront, les eaux qui descendront d'en haut formeront un seul amas. » Ça, c'était ce qui était prédit. Et voilà ce qui se passe au verset 15-17. « Quand les sacrificateurs porteurs de l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, les eaux s'arrêtèrent et tout le peuple passa à sec jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. » Ce n'est pas juste la grâce qui ouvre un chemin nouveau. La promesse servie dans un plateau, le peuple a dû faire ce pas de foi de mettre les pieds dans l'eau. Ils ont dû obéir. Dans tous les sens du terme, ils ont dû se mouiller quelque part. Et j'aimerais dire ce matin que la grâce, elle te libère de l'esclavage, mais c'est à toi d'entrer dans ton pays promis. Parce que tu te lèves, tu as la foi et tu te mets en marche. Alors évidemment, la grâce te donne la force de le faire. Sinon, ça devient juste humain, comme ce que disait avant Manu, par nos propres efforts au moment de la Sainte Cène. Mais quelle différence quand même! Et voilà pourquoi tant de gens y restent dans cette zone tampon, le désert. Convertis, même libérés, mais encore dans le désert. Lieu de tentation, pas encore dans l'accomplissement des promesses, des prophéties, puis l'impression d'être jamais vraiment dans son appel. Ça vous parle? Dieu ouvre la mer Rouge pour nous sauver, mais il ouvre le Jourdain pour ceux qui osent y entrer. En d'autres mots, Dieu nous sort d'Égypte par sa puissance. Dieu nous sort d'Égypte par sa puissance, mais nous fait entrer dans la promesse par l'obéissance. Josué, il a obéi. Il a demandé au sacrificateur de commencer à marcher dans l'eau, alors que ce n'était pas ouvert. Quelle obéissance quand même, hein? Puis les sacrificateurs, ils auraient pu dire, hey, « Mon gars, on ira quand Dieu aura ouvert la porte. Quand ça s'ouvre, on saura que c'est le moment d'y aller. » Ils attendraient encore maintenant. Ce serait des fossiles peut-être depuis. Mais ils ont commencé à marcher dans l'eau. Et connaissant Dieu, je pense qu'ils n'ont pas juste dû mettre un orteil. Je pense que si le Jourdain était bien froid, j'imagine bien Dieu attendre qu'ils aient passé la barre fatidique de la taille pour ouvrir le Jourdain. Et je crois que le pays promis, en fait, il demande une démarche. Il demande une démarche d'obéissance. À la mer Rouge, Dieu nous sauve et nous libère d'Égypte, de notre ancienne vie. Mais pour sortir du désert et de cette mentalité d'Égypte, il y a cet appel d'obéir et de marcher par la foi, alors que rien n'est ouvert. Je pose le pied et j'obéis l'instruction. Et c'est l'homme de Dieu chinois, Watchman Nee, qui a dit « Dieu ne nous fait pas entrer dans ses promesses avant que nous ayons appris à dépendre de lui ». Et ce que je trouve super fort aussi dans cette image, et aussi pour qu'on comprenne bien ce que je dis, c'est pas juste par nos efforts qu'on entre dans le pays promis. C'est pas du tout ça. Dieu a été très clair en demandant que ce soit les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'Alliance qui commence à rentrer. Et l'arche de l'Alliance, ça représente la présence de Dieu, l'Alliance, l'autorité de Dieu au milieu du peuple. Et entrer dans la promesse, entrer dans son appel, entrer dans une nouvelle saison, ça ne commence pas par la stratégie, par une démarche, ou ni même juste un désir. « Ah, moi je veux être un homme et une femme de réveil, quand on voit le monde, il faut que j'y aille. » C'est pas ça, non. Ça commence par l'arche de l'Alliance, et c'est ce qui a ouvert le pays promis. Ça commence par la présence de Dieu, l'adoration, la dépendance à Dieu, qui nous permet de vivre pleinement rempli de sa vie. Et c'est rempli de sa vie qui va nous permettre, par sa force, cette grâce, de faire ce pas d'obéissance cette fois. Ça vient quand même toujours de lui. Mais on n'entre pas dans la promesse sans passer par la présence de Dieu. Et c'est mon deuxième point sur le pays promis, c'est d'entrer dans le pays promis par la présence. Et la promesse ne vient jamais avant la présence de Dieu, mais c'est la présence de Dieu qui ouvre la promesse. Et lorsque les sacrificateurs ils commencent à marcher dans l'eau, c'est pas parce qu'ils sont forts, parce que sinon Dieu aurait fait aller les soldats, il y en avait assez dans le peuple. Leur courage vient parce qu'ils sont proches de Dieu. Et Josué 3:4 dit, « Il y aura une distance entre vous et l'arche, afin que vous sachiez par quel chemin vous devez passer. » C'est la présence qui montre le chemin, et le peuple suit. Et on en revient toujours à ce qui brûle dans mon cœur, qui me consume même. C'est la présence de Dieu, c'est une vie d'adoration, c'est de passer du temps à parler à Dieu, à l'écouter, à l'adorer, alors que personne ne te voit, tu l'adores, t'es chez toi à genoux, tu fixes tes yeux sur lui, tu dis qu'on, tu parles pas de ta vie ou de tes problèmes, mais tu l'adores. On peut aussi des fois parler de nous-mêmes, mais souvent, il cherche des adorateurs, des gens qui l'adorent, qui l'écoutent. C'est ce qui va te faire rentrer dans qui tu es appelé à être, c'est cette présence. Et il n'y a pas de raccourci. Sinon, tu vas continuer à tourner dans le désert, un lieu de frustration, un lieu de tentation, et l'impression d'être jamais assez nourri. C'est jamais assez bien. On n'est jamais assez nourri avec ce qu'on nous dit. Et j'en suis profondément convaincu, tant pour ma vie que pour l'Église. Quand l'Église met la présence de Dieu avant l'organisation, l'adoration avant l'action, Dieu ouvre des portes et donne le pays, c'est-à-dire accomplit ses promesses. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'organisation, mais ça passe avant. Et c'est pour ça que la vision qui brûle en nous, ici à l'Église Passion, ça commence par la présence de Dieu, par la louange, par l'adoration. Et ça va nous amener dans des actions qui portent ensuite du fruit. Un enfant, il est toujours conçu et créé dans l'intimité. Et les promesses émergent et le fruit vient de cette intimité qu'on a dans la présence de Dieu. Entrer dans le pays promis, c'est aussi un changement de mentalité. La conversion, la délivrance, ça nous fait sortir d'Égypte. Mais le changement de mentalité, ça fait sortir l'Égypte qu'il y a en nous. Vous voyez la différence? Et Israël, il pouvait pas entrer dans le pays avec une mentalité d'esclave, avec la nostalgie de l'Égypte, avec la peur même. Et aujourd'hui encore, on ne peut pas vraiment entrer dans notre appel si on a une mentalité de survie. On ne peut pas rentrer dans nos promesses avec la peur peut-être de manquer. On n'entre pas non plus dans l'appel sans la transformation intérieure. Et c'est David Wilkerson qui a dit « Israël est sorti d'Égypte en une seule nuit, mais il a fallu 40 ans pour que l'Égypte sorte d'Israël. » C'est une transformation, c'est un changement de mentalité. Le pays promis, c'est un pays abondant et surnaturel. Un pays où coule le lait et le miel. Et dans la Bible, le lait, c'est la nourriture riche, nourrissante. Le miel, c'est la douceur, c'est la bénédiction. Ce n'est pas juste pour survivre, mais c'est pour bien vivre. Ce n'est pas juste servir Dieu ou être dans son don, mais être à bout de souffle. Il y a l'abondance. Nombre 13 nous dit que Josué et Caleb ils portent une grappe à deux, tellement elle est grande. Dans le pays promis, la terre produit au-delà du normal. Le pays promis, c'est là où on dépasse le normal, on dépasse le naturel, ça veut dire que c'est là où commence le surnaturel. Les fruits étaient visibles dans ce pays. Vivre dans son pays promis, c'est porter du fruit visible dans notre vie. C'est avoir un impact qui dépasse nos propres sources ou nos forces. Le pays promis est aussi appelé le pays du repos. Deutéronome 12, 9, 10. Car vous n'êtes pas encore arrivés au repos et à l'héritage que l'Éternel, votre Dieu, vous donne. mais vous passerez le Jourdain et vous habiterez dans le pays que l'Éternel, votre Dieu, vous donnera en héritage. Il vous donnera du repos après vous avoir délivré de tous vos ennemis. Il les a délivrés de l'ennemi et il passe le Jourdain dans ce pays du repos. Et écoute ça ce matin. Si tu es tout le temps fatigué et que même du temps dans la présence de Dieu te fatigue, Dieu veut te libérer d'une mentalité d'Égypte. Et c'est aujourd'hui le jour de ta délivrance pour que tu puisses entrer et traverser ce Jourdain et entrer dans ce pays promis. Il y a un repos qui vient de lui, une paix, une force, une joie, un zèle. Et le repos dans la Bible, ce n'est pas ne rien faire, c'est pas arrêter de combattre, c'est pas une vie facile. Le repos, c'est vivre aligné avec Dieu, c'est marcher dans ce pour quoi on est appelé. C'est tellement génial quand on sait qu'on est au bon endroit, à la bonne place, en train de faire ce que Dieu veut. C'est ne pas être en fuite comme l'Égypte, c'est ne pas errer sans savoir tellement où on va dans le désert, mais c'est habiter ce que Dieu a promis. Et le repos, c'est la fin du mode de survie et c'est le début de la destinée. Et la Bible appelle précisément le pays promis le repos parce que c'est là qu'on vit enfin à sa place. Et en résumé, le pays promis, ce n'est pas une vie sans combat, mais c'est une vie qui porte du fruit. Et alors que j'ai bientôt terminé, j'en arrive à un des derniers points. On a vu en début la mentalité d'Égypte, on a vu ce pays promis. Et maintenant, j'aimerais juste ce dernier point, comment encore y rentrer, c'est vouloir plus. Et j'ai été frappé la semaine passée par l'enseignement de Thierry Juvet dans notre groupe ressources. C'était vraiment un excellent enseignement, le dernier du module 1. Et dans Exode 33, 18, il est dit, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Pourtant, Moïse, il a tout vécu. Le buisson ardent, la sortie d'Égypte avec tous les miracles des plaies, le miracle de la manne, nourriture tous les jours, l'écaille, l'eau qui jaillit du rocher. De quoi écrire 20 livres et puis raconter ça dans le monde entier. Et pourtant, il est mis qu'il crie, « Fais-moi voir ta gloire. » Il est désespéré de plus de Dieu, pourtant avec tout ce qu'il a déjà vu. Et je suis convaincu que ce qui nous sort du désert et de cette mentalité d'Égypte et nous fait entrer dans le pays promis, c'est cette faim, cette soif, cette audace à demander plus, à demander plus grand. Et Dieu a parlé à Moïse qui a exhorté le peuple à quitter l'Égypte. Puis le peuple, ils l'ont écouté, ils ont été convaincus par les promesses de ce pays promis. Du coup, ils ont été prêts à quitter l'Égypte, tout le confort qu'il allait avec la maison, la nourriture, l'eau, tellement de choses confortables dans cette civilisation égyptienne. Ils sont partis pour rien, pour le désert, mais convaincus des promesses et d'un pays de bénédiction, convaincus d'un pays où coule le lait et le miel. Ça, c'était la première sonnerie du réveil. Ils sont sortis d'abord. Après, ils ont pressé sur répétition pendant 40 ans. Mais ils ont bougé parce que la soif du pays promis était plus grande que l'attrait d'Égypte. Mais c'est avec cette révélation du pays promis qu'on va quitter l'Égypte. Pas parce qu'il faut, parce qu'à ce point, il y en a beaucoup et beaucoup qui arrivent à cet endroit-là. Ils n'en peuvent plus. Ils font la démarche de sortir d'Égypte, de quitter cette posture d'esclavage, de souffrance, d'oppression. Ils ont entendu parler d'une vie nouvelle en Jésus et ils laissent tout ça derrière et ils se convertissent. Mais ensuite, beaucoup, beaucoup passent leur vie entière libérée d'Égypte, mais dans le désert, sans pleinement entrer dans les promesses pleines et entières que Dieu a prévues pour eux. Et beaucoup sont sortis du pays des ténèbres qui les enserrait. Ils ont même vu les miracles, comme le peuple qui a vécu tellement de miracles dans le désert. Libérés de ce qui les rendait captifs, ils ont goûté à la vie, ils ont pu boire à l'eau du rocher, s'abreuver, expérimenter le baptême, cette eau qui lave, cette eau qui abreuve. Ils ont vu le miracle de la manne, nourriture quotidienne. C'est tous les jours la nourriture du jour, la manne du jour, le verset du jour. Mais il y a tellement plus que ça. Et il arrive parfois les défis de la vie. Dans le désert, il y a la chaleur du jour, il y a le froid de la nuit. Et aussi dans le désert, il y a le serpent qui vient tenter, comme Jésus dans le désert. Et là, il vient justement tenter là où il y a des manques. Tenter à des aspects qu'on a peut-être laissés quand on était en Égypte. C'est là que vient le serpent. Le tentateur qui vient justement tenter dans les domaines qui nous font souffrir, il va justement venir là où il y a des manques et des frustrations dans nos vies. À Jésus, qui venait de jeûner 40 jours, il va lui proposer quoi ? À manger. Alors, je ne vais pas revenir sur toute la tentation de Jésus, mais l'ennemi dans le désert, il vient justement là où il y a des choses que tu as dû laisser en quittant l'Égypte, puis que tu ne vis pas encore maintenant. Et beaucoup restent dans ce désert. Le peuple d'Israël, il aurait pu atteindre, comme j'ai dit avant, 10-15 jours de marche, et ils ont tourné 40 ans en restant dans ce schéma. 40 ans, c'est toute une vie. 40 ans à entendre des prophéties d'un appel. 40 ans à avoir entendu des prophéties d'abondance, de lait, de miel qui coule. 40 ans à entendre d'un pays à eux qui leur appartiennent. On peut passer notre vie entière à entendre parler d'un réveil ou de notre ministère ou entendre les prophéties qu'on a entendues un jour, qu'on peut peut-être réécouter encore en audio ou bien aller au prochain truc, on aura de nouveau la même prophétie. Pour eux, c'est à portée de main et pourtant, ils n'y sont jamais entrés. Toute cette génération, en fait, n'est jamais entrée dans ce pays qui a été prophétisé pour eux. Ce n'était pas des fausses prophéties, c'était le pays de la promesse pour eux. Pourquoi ? Le peuple, il n'est pas entré alors qu'il était si près, alors qu'ils avaient vu des miracles, que la nuée était avec eux, Dieu était là, parce qu'il y avait encore cette mentalité d'Égypte qu'on a vu qui leur collait à la peau, ce confort, cet esclavage devenu normal, un lieu de séduction, la réussite sans sainteté. Et on peut être touché par un message de réveil, mais ne pas faire le pas de se lever. On presse sur le réveil et c'est reparti pour un tour. Et la pensée que j'avais pour sortir de ça, de se sortir d'une vie chrétienne pépère et spectatrice de ce qui se passe ailleurs ou chez les autres, c'est deux choses. Et la première chose, si l'ennemi peut toujours revenir avec la nostalgie d'Égypte, s'il peut toujours revenir avec ses tentations humaines de confort, de chair, ou bien qui vont nous-mêmes nous amener, malheureusement certains, à retourner complètement dans le monde, si tu as la tentation de retourner en Égypte, si tu as la tentation de retourner dans un style de vie ou de reprendre des choses qui sont dans l'Égypte, c'est que même si tu es sorti d'Égypte, que tu t'es converti, une part d'Égypte est restée en toi. Même si tu t'es converti, que tu as passé par les eaux de la mer morte, tu as vu les miracles du rocher, même des moments de visitation, où il y avait des cailles, il y avait tellement à manger spirituellement. Si tu n'es pas encore dans le pays promis et que les choses du monde t'appellent à revenir, même en arrière, c'est que cette mentalité, elle est encore en toi. Et la première clé ce matin pour quitter ce désert, c'est d'être libéré des restes d'Égypte qui nous collent encore à la peau. Mentalité d'Égypte, souvenir d'Égypte, nostalgie d'Égypte, ou ces bonnes choses que le monde propose quand même, que j'ai l'impression de perdre si je vais à fond avec le Seigneur. Puis le désert, c'est tellement inconfortable. Parce qu'on ne peut pas profiter pleinement, on ne peut pas profiter pleinement de la vie du monde, on n'y est plus, puis on n'est pas encore dans le pays promis. Et les promesses, c'est notre appel. C'est le pire endroit, c'est une zone tampon qui était passable en 10 jours, et le peuple a fait toute sa vie, et beaucoup de chrétiens passent toute leur vie dans cette zone tampon. Et là, le message ce matin, c'est cet appel de Dieu, non pas à quitter l'Égypte, parce que beaucoup, on a déjà parti de là, mais à être libérés de l'Égypte qui est en nous. Et on utilise souvent cette image lorsqu'on prie pour quelqu'un, que même si on nettoie une maison, qu'on chasse l'ennemi de nos vies, si on laisse ne serait qu'un clou au mur, c'est assez pour que l'ennemi vienne y accrocher sa veste et puis qu'il se sente de nouveau chez lui. Et Dieu désire amener un souffle de consécration et de sainteté, c'est ça un esprit de réveil, et ôter de nous tous ces restes d'Égypte, ne serait-ce qu'un clou, pour que l'ennemi ne se sente plus chez lui s'il essaye de revenir dans notre maison. Et si Dieu fait ça, amène ce souffle de consécration et de réveil, c'est pas parce qu'il cherche des hommes et des femmes qui sont aussi propres que des musées, mais c'est parce qu'il désire enfin te faire entrer dans la terre promise qu'il a pour toi. Et c'est le désir de plus qui va nous amener à ça. Pas la peur de la remise des lieux de notre vie pour que ça soit picobello le jour où on sera devant lui. Vous comprenez ce que je veux dire ? Mais tout simplement que Dieu a en horreur les choses d'Égypte. Et c'est pour ça qu'il veut nous voir rentrer dans le pays promis. Malgré la frustration d'une vie hors du monde et pas vraiment dans la plénitude de la vie avec Dieu, beaucoup, beaucoup y restent. Et ce qui va permettre vraiment d'en sortir de cette terre promise, c'est de lâcher vraiment, c'est de faire un choix, de lâcher tout ce qui est d'Égypte encore dans notre cœur. Mais surtout aussi de plus se satisfaire de cet état d'être dans cette zone tampon, dans ce désert, et de vouloir s'en sortir, de vouloir plus. Et de crier au Seigneur, je veux voir ta gloire, je veux entrer dans ce que tu as prévu. Au final, j'ai quasi fini. Au final, seules 2 personnes de tout ce peuple sont rentrées dans ce pays promis. C'est Josué et Caleb. Il n'y en a que 2. Et on pourrait dire, ouais, c'est parce qu'ils ont eu la foi, parce qu'ils ont eu l'audace, parce qu'ils ont vu la moitié pleine plutôt que vide du verre, parce qu'ils ont vu le lait, le miel, ils ont vu la grandeur des fruits plutôt que la grandeur des géants. Oui, mais pourquoi la peur n'a pas eu d'impact sur eux, comme pour les autres? Moi, je pense qu'il n'y avait plus ce petit clou de la mentalité d'Égypte dans leur vie. Il n'y avait plus ça, auquel l'ennemi peut se raccrocher. La peur de préférer rester en stand-by, retourner aux choses anciennes. C'est ce qui permet, je pense qu'on le trouve dans Exode 33, ce qui permet ça. Pourquoi ? L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur Josué, fils de Noun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il chérissait ces moments d'intimité et de présence de Dieu à tel point qu'il n'y avait plus la place pour l'Égypte dans son cœur. Tellement il était rempli de cette présence de Dieu. C'est pour ça que ça n'a pas eu d'impact sur lui et qu'il a pu rentrer. Un des seuls. Et l'autre, Caleb. Pourquoi alors Caleb? Il est dit dans Nombre 14, « Quant à mon serviteur Caleb, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays. » Il n'avait pas cet esprit d'Égypte, il avait un autre esprit qui lui a fait qu'il ait obéi, parce qu'il a suivi ma voie, parce qu'il a obéi, il est entré. Et en fait, il y a les deux choses. Josué, il a été dans son pays parce qu'il était un amoureux de la présence de Dieu. Alors, il n'était pas juste béat comme ça. Il a combattu, hein, ça a été un guerrier, il s'est emparé de ce pays. Mais s'il a pu le vivre, si l'Égypte, la mentalité d'Égypte n'a pas eu d'impact en lui, c'est parce que c'est un amoureux de cette présence de Dieu qui passait du temps dans cette tente, plus que Moïse, qui est le plus grand prophète de tous les temps, selon la Bible, imaginez. Et Caleb, c'est parce qu'animé d'un autre esprit, il a obéi. Et c'est les deux seuls qui sont sortis de ce désert, j'allais dire infernal, de cette zone tampon tellement désagréable, parce qu'on n'est plus non-chrétien et puis on n'est pas encore vraiment dans notre appel. Et ce matin, j'ai envie qu'on prenne un temps, le groupe Louange, vous pouvez venir, j'ai envie qu'on prenne un temps vraiment pour qu'on puisse se déterminer. Je vais donner vraiment l'occasion à chacun de se dire, mais où j'en suis et qu'est-ce que je veux vivre? Lévitique 25 nous dit, vous sortirez d'Égypte et vous habiterez ce pays. Je vous le donnerai pour héritage. L'Éternel, Deutéronome 31, l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous. Il ne vous délaissera pas, il ne vous abandonnera pas. Ne craignez pas, ne vous effrayez pas. Et j'aimerais faire un appel ce matin. Et on prendra la suite de ça encore un chant. Ce n'est pas forcément un appel où on va prier pour vous, mais c'est un appel où on peut se déterminer et dire, moi, je me détermine. Je désire, j'ai déjà peut-être quitté, je me suis déjà converti, j'ai quitté l'Égypte, mais j'ai l'impression qu'il y a des choses d'une mentalité d'Égypte en moi qui m'empêchent d'être vraiment dans mon pays promis et pleinement dans la destinée que Dieu a prévue pour moi. Et ce que j'aimerais faire, c'est que vous puissiez simplement vous lever à votre place et dire, moi, je me lève et je décide pour cette année, aujourd'hui, cette sonnerie, ce message, cette sonnerie de réveil, je ne veux pas juste presser sur la touche répétition ou attendre la prochaine, comme sur l'iPhone. Dans 5 minutes, c'est-à-dire dans 15 jours, ou ce soir sur YouTube, il y a de toute façon un autre message qui va peut-être me réveiller. Je veux entendre cette sonnerie-là de réveil, me lever et rentrer dans ce pourquoi je suis appelé, avec la force et la grâce de Dieu. Et je veux traverser ce Jourdain. Je veux sortir de ce désert et je veux rentrer dans les promesses que Dieu a pour ma vie. Je vous encourage simplement à vous lever. Moi, je suis déjà debout. Et je crois que c'est maintenant, vraiment. Ne presse pas cette touche répétition, mais entends vraiment ce message. Mets fin au fait de tourner vraiment dans ce désert. Seigneur, je te prie maintenant, je vais prendre vraiment autorité au nom de Jésus contre cette mentalité d'Égypte qui sont comme des chaînes invisibles, alors qu'on a été libéré peut-être de la captivité, qu'on est sorti de cette vie, j'allais dire, du royaume des ténèbres, et on est sorti du monde. Mais il y a encore des choses du monde qui peuvent encore nous retenir et qui veulent nous empêcher d'entrer vraiment pleinement à 100% dans notre destinée. Moi, je prends autorité maintenant contre cet esprit d'Égypte. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Je brise ces chaînes au nom de Jésus. Et toi qui désires rentrer pleinement dans ce pays promis, sois libéré complètement et qu'un esprit de consécration et de réveil vienne jusqu'à ôter ce dernier clou dans ta vie. Un dernier reste dans lequel le diable peut mettre sa veste pour se sentir chez lui. Et finalement, il s'habitue d'être là et toi, tu t'habitues au péché. au nom de Jésus. Souffle, esprit de vie, esprit de consécration. C'est toi, Saint-Esprit, qui veut toucher nos cœurs. C'est cette révélation du pays promis qui a fait que le peuple y est entré. Et je te prie, donne cette révélation ce matin par ton esprit, qui a tellement plus, plus grand, plus fort, plus puissant, plus abondant. Et Seigneur, que comme Moïse, on puisse crier, Seigneur, fais-moi voir. Fais-moi voir ces choses. Fais-moi voir ta bonté. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur, je veux rentrer. Je ne veux pas toujours écouter éternellement les promesses pour mon futur ou pour le futur. Je veux rentrer dans ce futur. Je veux traverser ce Jourdain. Et ça, ce n'est pas toi qui ouvres le Jourdain. C'est quand je mets le pied dedans que ça s'ouvre. Et ce matin, je décide de mettre le pied dans ce eau. Je décide de mettre le pied dans ce Jourdain qui est encore fermé. Je ne veux pas attendre juste quelque chose qui se passe tout seul. C'est moi qui mets les pieds. Et je traverse. Et je rentre dans ce pays promis. Et je m'empare de ça au nom de Jésus. Amen.